Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. A tout de suite. Bien, et ben, rebonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Donc, vous êtes à l'écoute de Idées Noires, donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et ce soir, ça sera avec une pensée quand même à un de nos camarades qui vient de décéder. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean-Pierre, avec qui j'ai fait nombre d'émissions à ce micro, donc, de Idées Noires. Et il y a quelques années, hein, ça date, donc, qui est décédé là récemment. Donc voilà, toutes nos pensées à sa compagne, à sa petite gamine aussi de 10 mois et à toute sa famille. Voilà, c'est ce que je tenais à faire et à dire en début de cette émission. Pour la suite, eh bien, ce sont quelques annonces. Il y en aura deux ce soir qui sont, un peu longues parce qu'on va lire une lettre. déjà pour commencer, on va parler de la Maison de l'écologie, voilà, à 4 rue Baudin à Lyon, dans le 1er arrondissement, qui organise le week-end prochain, donc le 1er, le 2 et le 3 juillet, une rencontre, un week-end d'alternative, ils appellent ça comme ça, donc à Bellevue, c'est Bellevue 2016, c'en est le titre. Ils organisent donc des ateliers pratiques, des échanges de savoir-faire, etc., etc. Il y a un long programme d'ailleurs que je ne vais pas énumérer ici parce que ça serait peut-être un peu long. Mais on peut aller sur leur site qui est le site internet mde en minuscule -lyon.com et vous aurez donc toutes les informations concernant ce week-end. Qui reste malgré tout intéressant. L'entrée, la participation, on va dire, est à prix libre. Et ça se passe place Bellevue et rue Baudin, donc à leur local. C'est sur la Croix-Rousse, hein, dans le 1er arrondissement. Voilà pour les amis de la Maison d'écologie.
Puis je crois qu'il y a une petite lettre, du coup, hein, des guillotins adressés à monsieur Gérard Collomb.
Voilà, monsieur Collomb qui a encore fait des siennes, évidemment, et qui va continuer encore longtemps comme ça, j'ai l'impression. Cette lettre, donc, elle a été faite par les Guillotins, que vous connaissez donc tous et toutes. C'est une association qui s'était bien mobilisée contre le prix de la piscine exorbitante, piscine
des Berges du Rhône.
Eh bien, ils se remobilisent cette fois pour autre chose que je vais vous lire, donc là, maintenant. C'est une invitation pour le 7 juillet 2016. Pour vous remettre, donc, il s'adresse à Monsieur Collomb, Gérard, maire de Lyon, pour lui remettre le chiotte d'or des WC les plus chers du monde. Voilà, donc lettre à Gérard Collomb. Monsieur le président de la mégalopole, à la veille des rituels départs en vacances, les Françaises et Françaises grognent. Les Guillotins, eux, sont heureux de vivre à Lyon, la mégalopole rayonnante, et veulent le faire savoir. Concrètement, ils souhaitent vous remettre la chiotte d'or des toilettes publiques les plus chères du monde. Car si la ville de Hong Kong peut s'enorgueillir de posséder des WC en or, à vocation seulement décorative, estimé à 5 millions de dollars, les habitants, citoyens et surtout contribuables lyonnais seront ravis d'apprendre que la cité des Gaules les détrône haut la main. car nos toilettes à nous, situées place Mazagran à la Guillotière, bâties avec seulement 2 millions d'euros de deniers publics, remplissent leur office en bonne et due forme. 2 millions, c'est le prix approximatif de l'achat, environ 1,5 million d'euros, puis la démolition, environ 500 000 euros, d'un immeuble réhabilitable qui se trouvait là, en lieu et place de ces pauvres toilettes, au 52 de la rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon. Peu importe que cet immeuble ait initialement été acheté par la collectivité pour faire du logement social, que des gens y vivaient après avoir réquisitionné les lieux, que nombre d'habitants aient élevé la voix pour le conserver, qu'un bailleur social ait proposé de le réhabiliter, jugeant l'opération tout à fait réalisable. Votre toute-puissance publique avait tranché. L'immeuble se transformerait en toilette publique. 2 millions. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la moitié d'une subvention votée l'an passé par le Grand Lyon pour la réalisation de quelque 300 logements sociaux ou de 2,5% du budget consacré au logement social par le Grand Lyon en 2014. Mais comme vous l'avez dit à propos du budget 2015 de votre institution drastiquement réduit, nous sommes dans une situation difficile, 40 millions d'économies pour la ville, c'est extrêmement compliqué. Face à un tel choc, nous allons faire des choix conséquents. Alors, bling bling municipal, avec ce chiotte d'or, les guillotins espèrent saluer un emblème modeste, mais tout à fait percutant, des choix conséquents que vous avez su faire. Il faut dire qu'au risque de décevoir vos électeurs PS, vous n'avez pas hésité à instaurer le bling bling sarkozien comme ligne directrice de votre action municipale. L'heure est au rayonnement, au luxe et au démantèlement décomplexé des budgets et équipements à vocation sociale. Le grand stade de Décines n'a pu sortir de terre que grâce à votre volontarisme pour financer avec d'autres collectivités plusieurs centaines de millions d'euros d'infrastructures de transport. La piscine du Rhône a été rendue inaccessible aux pauvres grâce à un investissement public courageux de 33 millions d'euros. Peu après, vous avez décidé de la fermeture pure et simple des bains-douches de Flessel en centre-ville, dont la rénovation a été, entre guillemets, jugée trop chère par vos adjoints. Comme vous avez du bon sens, vous avez livré l'Hôtel Dieu, ancien hôpital des pauvres, au Crédit Agricole, au luxe ostentatoire et pour l'heure à la publicité sauvage et gigantesque. Comme vous et vos idées, avaient de l'avenir, nous l'espérons, vous avez vendu l'ancienne école des Beaux-Arts au Crédit Agricole. Enfin, comme c'est le nerf de la guerre urbaine, vous n'êtes pas en reste sur l'habitat. 28 000 logements sociaux manquent dans le Grand Lyon. Quelques 1 700 personnes appellent chaque jour le 115 en vain et dorment à la rue. 25 000 appartements sont vides dans la seule ville de Lyon et les bâtiments vacants appartenant à la collectivité sont innombrables, mais vous avez la force de ne pas céder aux sirènes de la loi qui vous permettent de les réquisitionner et mieux, vous appuyez de toutes vos forces les expulsions de bâtiments réquisitionnés par des personnes sans abri. Alors c'est un appel aux Lyonnais reconnaissants. En définitive, tel le vampire des histoires d'horreur, vous avez su vider peu à peu le patrimoine de sa substance vivante et chaque jour un peu plus la métropole se mue en nécropole. C'est donc pour célébrer le coma social dans lequel vous nous plongez que les guillotins invitent chaque Lyonnais et chaque Lyonnaise à inaugurer, comme il se doit, ce monument historique en votre honneur, les toilettes publiques de la place Mazagran. À cette occasion, ils seront invités à vous clamer leur reconnaissance sous forme de textes qui seront criés sur la place publique. Et c'est une lettre donc signée de l'association Les Guillotins. Alors pour plus d'informations, évidemment, ce rendez-vous, donc suite à cette lettre envoyée à Gérard Collomb, eh bien le rendez-vous est à 18h pour la remise officielle du trophée Place Mazagran, précédé d'un discours de la criée. Un buffet dînatoire partagé sera proposé aux participants et aux participantes. Donc je rappelle, c'est le 7 juillet prochain, 2016, Place Mazagran.
Bon, je doute que M. Collomb soit là, mais c'est en tout cas une très bonne initiative. On va enchaîner avec tout à fait autre chose. On va faire un peu d'auto-propagande. Ah si, j'avais peut-être une autre annonce à faire du coup. On en reparlera peut-être la semaine prochaine si on est là, c'est pas sûr non plus. Voilà, depuis on sera toujours fin juin, mais à voir si on a encore un peu de force à mettre pour faire quelques émissions au mois de juillet. Mais il y aura certainement un repas de quartier organisé par Tiens bon la pente et la Plume Noire. Ce sera, alors c'est à confirmer dans les jours qui viennent, mais ce sera très certainement dimanche prochain, donc le dimanche 10 juillet. Généralement, c'est de 11h à 16-17h, voilà, sur la place Colbert.
Dans une semaine, donc.
Voilà, on vous confirmera ça.
D'autre part, aussi une petite annonce. Ouais,
on enchaîne.
ça vient, tout ça,
ouais,
en même
pas de
temps.
Oui.
La Plume Noire, comme on vous l'indique souvent, elle est ouverte le mercredi, tous les mercredis de 17h à 19h, et les samedis de 15h à 19h. Sauf que ce week-end, elle sera fermée, la Plume, puisque nous ne serons pas là, nous serons en réunion d'union locale de fin d'année. Voilà, on va remettre tout ça à plat, on va discuter et puis repréparer la nouvelle année, quoi. Enfin,
exactement, donc pas de permanence.
Saison.
Pas de permanence, du coup, pour ce samedi-là. Voilà. Donc du coup je reprends où j'en étais au départ, donc un peu d'auto-propagande comme on dit. Vous savez aussi sûrement, mais le 9 juillet prochain se tiendra la Marche des Fiertés, et donc je vais vous lire le tract de la coordination des groupes anarchistes qui sera distribué dans chaque Pride, un peu partout en France où nous sommes présents et présentes. Alors le titre... je voulais faire un petit point d'abord sur un petit point, non, mais lexique. Parce que du coup, il y a des termes voilà, qui sont des fois un peu compliqués. Et donc du coup, il y a un petit lexique qui est fait en bas de ce tract. Et je vais commencer du coup par lexique, comme ça peut-être que vous comprendrez mieux les termes. Donc à un moment donné, on va parler des émeutes de Stonewall. Et ben pour vous rappeler un peu ce que c'est, en 1969, aux États-Unis, des émeutes éclatèrent en réaction à une des nombreuses descentes de police qui visaient ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté LGBT, lesbienne, gay, bi, trans, par cette répression violente et quotidienne officielle, descente de police, contrôle d'identité, refus de laisser l'accès à des droits élémentaires ou officieuses, coups d'insultes, discrimination à l'embauche, viol, bannissement des familles, humiliation, moquerie. La société entendait bien renvoyer les LGBT à leur placard. Si les modes de répression sont parfois plus insidieux, la situation n'a pas tellement changé. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous sortons dans la rue car personne ne devrait avoir à se cacher. Donc voilà pour les émeutes de Stonewall. Et un petit lexique du coup sur les termes utilisés, il y a le terme « cis » qui est utilisé assez fréquemment dans ce genre de tract. Donc « cis » c'est une personne, une personne cis est une personne dont le genre correspond à celui qui lui a été assigné à sa naissance. Voilà. La cis-normativité, donc c'est les ensembles de normes, de pratiques et de croyances qui sous-entendent, encouragent et perpétuent la présomption de cissexualité universelle, donc savoir si on est garçon, on est forcément un garçon toute sa vie, et le contraire pour une fille. Et l'hétéronormativité, donc c'est un système de normes et de croyances qui renforce l'imposition de l'hétérosexualité comme seule sexualité ou mode de vie légitime, et donc qui rend les autres forcément déviantes. Donc voilà pour ce petit lexique. Et donc du coup, le titre du tract, c'est « Contre les violences hétérosexistes et transphobes, la meilleure défense est de contre-attaquer ». Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin, 50 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées lors d'une soirée latino au Pulse, boîte LGBTQI+, d'Orlando, aux États-Unis. Cette attaque à caractère homophobe, transphobe et raciste n'est pas pour autant une spécificité des courants fascistes nationaux ou religieux. Nous dénonçons les soi-disant soutiens à la communauté suite à cet attentat émergent de courants d'extrême droite qui relèvent de l'islamophobie. Les violences, entre parenthèses, violences psychologiques, moqueries, insultes, menaces, agressions physiques, viols, crimes, oppressions systématiques envers les minorités sexuelles et de genre existent partout dans le monde. Voilà, dans cette introduction, était dénoncé du coup les soi-disant soutiens, parce que du coup, il y a la manif pour tous, il y a Christine Boutin qui a apporté son soutien aux victimes, tout en sachant qu'elle perpétue la haine toute l'année contre les personnes... donc c'était le cas notamment par rapport à la manif pour tous, par rapport à cette loi du mariage pour tous et toutes. Donc du coup, on trouvait ça carrément du coup assez odieux, et que tous ces courants émergents de l'extrême droite, du coup, ça relève juste de l'islamophobie, parce que l'auteur, du coup, s'est revendiqué de Daesh. Et on reprend. Donc en Turquie, par exemple, la police anti-émeute a assiégé les abords de la place Taksim à Istanbul à l'aide de gaz, de matraquage et de canons à eau pour empêcher la tenue de la Trans Pride du 19 juin 2016. Le lendemain, une descente a eu lieu dans le local anarchiste d'Infial, je ne sais pas si je dis bien, Dine Fiol, je ne sais pas, qui a accueilli un atelier d'autodéfense contre les attaques homophobes et transphobes. Quant à la Gay Pride du 26 juin dans la ville, les autorités l'avaient interdite. Cette interdiction faisait suite à l'attaque venant de l'État turc et de sa police l'année précédente, où la manifestation ne put même pas quitter la place Taksim. Malgré tout, des centaines de personnes ont décidé de braver l'interdiction étatique et les menaces fascistes, et ont été aussitôt empêchées par l'emploi de gaz lacrymogène et l'utilisation de fusils anti-émeutes par les forces de répression turques, finissant la journée par une quinzaine d'interpellations. Dans de nombreux pays, il est toujours impensable pour les minorités sexuelles et de genre de pouvoir vivre et défiler au grand jour. En France, le gouvernement a imposé aux organisatrices, organisateurs de différentes marches des fiertés de les décaler en juillet, à Lyon et à Paris notamment, avec comme justification la tenue de l'Euro de football. À Paris, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont poussé pour un nouveau report. Donc normalement, ouais, c'est prévu le 2 et ils voulaient le repousser encore un peu plus loin. D'habitude, c'est toujours mi-juin à peu près, hein, les marches des fiertés. Donc on poussait pour un nouveau report et devant le refus des organisatrices et organisateurs, ont finalement, entre guillemets, concédé un parcours amputé de la moitié de sa longueur. 2,5 km au lieu des 4,6 initialement prévus. L'argument avancé, et comme d'habitude, c'est celui de la, entre guillemets, sécurité. Pourtant, l'État est bien capable de protéger 10 fan zones et 10 stades pendant plus d'un mois. Il tolère la présence et l'expression sur le territoire de groupes de supporters aux idées racistes, sexistes, homophobes et transphobes. Mais il ne serait pas en mesure de protéger quelques manifestations pour commémorer les émeutes de Stonewall ou encore dans le cadre de la loi, et pardon, dans le cadre de la lutte contre la loi travail. Depuis Stonewall, justement, tous et toutes celles et ceux qui échappent à l'hétérosexualité imposée le savent, la police n'est pas le garant de notre sécurité. Au contraire, elle participe à la société qui opprime les minorités sexuelles et de genre par son implication et son soutien aux humiliations, brimades, insultes et autres violences physiques. Plus largement, ce sont toutes les politiques menées par le gouvernement qui sont à remettre en cause. L'abandon des promesses électorales du PS envers la communauté LGBTQI en est un exemple flagrant. Plus encore, la loi travail prévoit d'isoler davantage chacun et chacune de nous face à nos patrons et à nos supérieurs. Il sera ainsi encore plus difficile de riposter en cas de harcèlement moral et sexuel de la part de notre hiérarchie ou de nos collègues. La deuxième partie du tract, c'est plus des revendications. Nous revendiquons donc l'arrêt de la psychiatrisation et de la stérilisation forcée des personnes trans, le changement d'état civil sur demande, l'accès aux hormones, à la chirurgie, à la santé pour les personnes trans, l'accès à la PMA pour tous et toutes, l'accès égal pour tous et toutes au don du sang, le maintien et la facilité de l'accès à l'IVG, des moyens concrets et d'ampleur contre l'épidémie du sida, des moyens pour une éducation non sexiste et non hétérocentrée, et la régularisation des migrants LGBT+, sous le statut de réfugiés politiques. Plus largement, nous pensons que la voie de l'émancipation de toutes et tous ne réside pas dans l'inclusion des minorités au sein de cette société capitaliste, hétérociste, sexiste et raciste qui tue, jette à la rue, favorise la prostitution forcée et les comportements autodestructeurs. Nous nous battons pour l'abolition des frontières et l'égalité sociale et économique comme seuls horizons de notre libération. Luttons pour en finir avec la société hétérociste, sexiste et l'État qui la maintient. Et voilà pour ce tract signé de la CGA. Et donc, on vous donnera rendez-vous le jour de la marche des fiertés. Donc, c'est le 9 juillet de mémoire. J'ai pas l'heure en tête, mais c'est dans l'après-midi, hein, 14 ou 15 heures. Le rendez-vous est toujours le même de départ. C'est vers le lycée du Parc, là, vers le Parc de la Tête d'Or. En espérant que, il n'y ait pas encore de nouvelles modifications imposées par l'État et la préfecture. Je voulais juste faire un petit point, du coup, assez rapide, parce que ça en parle dans le texte, mais par rapport à ce qui s'est passé en Turquie, voilà, parce qu'en l'honneur de la marche des fiertés des trans, il y avait un grand nombre de policiers et de Thomas, donc ces véhicules d'intervention anti-émeute, qui étaient déployés dès le matin de la marche dans le quartier donc Taksim et ses alentours, et l'accès de certaines routes a été coupé ce jour-là. Le démarrage de la marche était programmé pour 17h, la police n'a pas chômé et est intervenue dès le départ au moment de la lecture du communiqué devant le local du LGBTI Istanbul. Ensuite, ce fut le tour d'un autre rassemblement formé dans la rue et qui devait rejoindre le cortège. Un autre groupe anti-LGBTI, lui, est arrivé aussi à Taksim pour protester contre la marche et avancer en scandant des « Allahu Akbar ». La police a mis en garde à vue 11 personnes. Pendant ce temps-là, un rescapé des gardes à vue, vitrine entre guillemets de la police, brûlait le drapeau LGBTI. Voilà, ce serait trop optimiste de penser que les gardes à vue ne ciblaient que le groupe menaçant. Il y a eu également des arrestations dans le rang LGBTI. Et donc ça finit par « Nous sommes là, habituez-vous, habituez-vous, nous n'allons nulle part, habituez-vous ». Donc voilà, Donc voilà, il y avait aussi un petit texte du coup, mais je ne vous le lirai pas ce coup-ci parce que ça reprend aussi un peu ce qui avait marqué dans le tract, à savoir l'interdiction du coup de la marche des fiertés de cette année à Istanbul. Du coup, il y avait un appel sur net à afficher un peu le drapeau LGBTI pour faire chier Erdogan. Et il y avait aussi du coup un montage d'Erdogan un peu travesti qui circule beaucoup aussi, histoire de le faire chier un petit peu.
Ça va lui faire plaisir.
Voilà, ouais, je pense carrément. Et un dernier petite chose, si vous êtes sur Paris demain, il y a une conférence sur l'histoire et l'actualité des mouvements LGBTI plus en Turquie, donc le jeudi 30 juin le 30 juin à Paris, donc le titre de la conférence c'est T'es où mon amour, voilà, donc en Turquie, bah, comme on l'a dit avant, hein, les personnes LGBTI sont victimes de discrimination et de violence. L'homosexualité n'est pas illégale dans la République turque, mais elle reste un sujet tabou dans le discours public et les préjugés omniprésents alimentés par des déclarations homophobes de responsables gouvernementaux rendent la vie infernale pour les militants, militantes qui œuvrent conformément aux principes d'égalité pour la protection et le respect de la minorité. La loi sur l'égalité des droits et contre les discriminations exclut encore aujourd'hui l'identité du genre et l'orientation sexuelle. Dans son rapport « Ni une maladie, ni un crime », les LGBTI demandent l'égalité. Amnesty International met en évidence la discrimination que subissent ces personnes de la part des fonctionnaires dans les services de santé, l'éducation, le logement et le travail. Et donc voilà, donc ça va être sur Paris, ça se passe à la mairie du 10e, jeudi 30 juin à 19h. Si vous voulez y faire un petit tour, ça va être toujours bien de savoir un peu ce qui se passe en dehors de chez nous, notamment sur ces questions-là.
Tout à fait.
Petite pause musicale du coup.
Allez, une pause musicale, on va écouter encore une fois dans cette émission, comme la semaine dernière, Ridan ou Ridan, je ne sais pas comment on le prononce.
Je pense que c'est Ridan.
C'est Ridan, eh ben, allez, pour Ridan. Et ce soir, ce sera le Manège Enchanté, voilà, c'est parti.
À la retraite, on ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite? Même si les femmes vivent plus longtemps, on veut poser nos bagages, un peu de respect pour notre grand âge. On veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Classes ouvrières, on en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières? On ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons, ils finiront en saucisson.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Les jeunes en colère, nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère? Nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes, de banlieue ou des beaux quartiers.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Les gens sans papier, on nous maltraite dans vos églises. Que disent les gens sans papier? Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. On doit pouvoir vivre ensemble, élever nos gosses dans vos écoles. On doit pouvoir vivre ensemble, mais nous ne sommes pas nés sur ce sol.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Forces de l'ordre,
on n'en peut plus, y a trop de manifs.
Que disent les forces de l'ordre?
Nous sommes en manque d'effectifs. Il nous faudrait plus de casques pour pouvoir faire bien notre travail. Il nous faudrait des matraques pour mettre la France sur les rails.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Et bien voilà, on a même pu rajouter, on ne votera pas du tout, mais c'est pas grave. Mais c'est du vrai. Coup, chanson intéressante, parce que du coup, je crois qu'elle n'est pas forcément récente, et puis les effectifs de police sont toujours demandés par les syndicats.
2012, je crois.
Donc voilà, ouais, ça, là, ils sont. En plus, c'est pareil, ils sont fatigués en ce moment. Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons donc enchaîner avec une première salve de lutte sociale.
Allez, toi. C'est une salve, mais c'est un peu en vrac, hein, comme toujours, dans ces semaines-là. On va commencer par l'AFP, quand même, hein, l'agence France-Presse. Hein, ça leur arrive de faire grève. C'était une grève des personnels administratifs et techniques. Une grève d'une durée de 9 jours, quand même. La cause en est que c'est la renégociation des accords d'entreprise. Tiens. Mmh. La poursuite du mouvement a été reconduite et les journalistes, à cette date, donc on était au 13 juin, étaient en pourparlers pour rejoindre leurs collègues. À Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, c'était également au 16 juin, avec 200 jours de grève pour les postiers et postières. Ils sont en grève depuis le 30 novembre 2015, avec les syndicats Sud et CGT, pour de meilleures conditions de travail, ainsi que la protection d'un facteur menacé par la direction d'une sanction exemplaire. 11, ils et elles sont 11 donc sur la vingtaine que compte le bureau et donc en grève hein, bien sûr et des revendications avec le respect des modalités de reprise comme les préconisations médicales le décompte des jours de grève, etc. La direction serre les dents, n'en pipe pas une depuis le 30 novembre, mais conserve quand même ses représailles bien au chaud. Conseil de discipline pour un délégué CGT en mai avec à la clé des mois de suspension. Il y avait quand même un maximum de 24 mois de suspension, quand même, c'est sérieux. Dans le Loir-et-Cher, avec un rassemblement des travailleurs et travailleuses agents du département à Blois, c'est la CGT qui était dans le coup ici, avec rassemblement devant l'hôtel départemental pour une grève à la journée, donc 24 heures de grève, pour dénoncer une souffrance certaine dans leur travail, effectif en baisse, avec à la clé quand même, en soutien, je dirais, des témoignages d'assistantes sociales, absence non remplacée et dans cet état des choses, eh bien, le volume de travail augmente évidemment pour ceux qui restent. Des actions aussi, et ça vient de la part des Coffee Route, enfin des salariés de Coffee Route. Le 16 juin, une centaine de ces salariés étaient au péage d'Auvours dans la Sarthe, du côté de Champagné, là-bas, et qui étaient en manif avec distribution de tracts sur la loi travail pour la dénoncer, et même, quelle audace, faire connaître leurs soucis. Augmentation de salaire en berne, conditions de travail évidemment déplorables, dénonce aussi les restrictions depuis 3 ans. L'article, par contre, que j'ai pu piquer là, ne dit pas s'il y a eu péage gratuit à cette occasion. Donc, je ne vais pas faire un petit calembour, mais enfin, ce sont des actions quand même assez payantes.
Ouais, carrément.
Aussi. Bon, enfin, bref. Ensuite, personne n'est épargné hein, par les coups foireux, par les coupes drastiques dans les budgets. Et c'est le cas aussi, j'allais presque dire, de nos collègues de France Bleu, la radio France Bleu. Enfin, ce sont pas nos collègues, mais enfin. Autre chose.
Peut-être qu'ils sont un peu payés.
Oui, donc c'est à Toulouse qui était en grève le 27 juin. En fait, un mouvement de grève nationale contre les restrictions d'effectifs aussi, là. Ce qui amènera, selon les concernés, des suppressions d'émissions et des bulletins d'information. À Rennes, c'était le 27 juin également, avec les agents et agentes du nettoyage, avec le syndicat Sud qui était en grève, avec une grève à durée indéterminée, 40 personnes et plus, voire, avec tout le matériel de la municipalité, Assemblée Générale qui a assuré donc de la continuité de cette grève. De fait, à partir du 22 juin, les voitures balayeuses et les personnels sont restés au garage après cette fête de la musique du 21 et en pleine solde, rendez-vous compte, avec des rues, alors ça foutait mal, quoi, bien sûr, ce qui a fait grimacer quelques hauts bonnets. revendication, eh bien, valorisation des heures supplémentaires et dimanche et jours fériés également, il faudrait qu'ils soient mieux payés. À Pau, c'est un hôpital et un service des urgences qui était en grève le 27 juin pour plus de moyens. Une infirmière, une aide-soignante et un agent de sécurité de mieux. C'est la CFDT là, qui drive cette grève et conduit les négociations. Action des personnels soignants et info aux usagers aussi étaient donc de mise devant le service des urgences adultes. À Lorient maintenant, c'est à la CTRL, donc c'est les transports publics de la ville, transports publics urbains. Il y a eu un front syndical là, qui s'est même reconstitué, puisqu'il avait dû s'éparpiller un petit peu à un moment donné. Donc une grève largement suivie, 80% du personnel, mieux que les précédents mouvements. L'intersyndicale CGT-CFDT prévoyait même 90% de grévistes, dénonçait également le manque de dialogue social, et puis évidemment les NAO, les négociations annuelles obligatoires, déclinantes, avec une revalorisation à 0,4% proposée par la direction. Alors on bidouille de part et d'autre sur le taux de l'inflation. Ce serait 1,5% pour les syndicats et 0,2% pour la direction. Donc le 0,4% minable de la direction a toute sa justification ici. Enfin, pas pour tout le monde évidemment, puisque la grève était toujours de mise. C'est simple, les choses de calcul, non on y arrive toujours. Voilà pour cette première page de lutte. Il y en aura une seconde.
Et puis on va enchaîner du coup sur la lutte aussi, et puis sur la lutte contre la loi travail qui continue. Même si ça passe à s'essouffler un peu, c'est peut-être un peu moins péchu parce que les gens commencent à être aussi un peu fatigués, mais restent toujours aussi déterminés. On voulait juste refaire avec vous un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, mais juste sans rentrer vraiment dans le détail, puisqu'on l'a fait dans de précédentes émissions. Vous souvenez sûrement donc du coup de cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que l'accord d'entreprise pourrait être moins favorable que la loi, que pour l'instant on part du code du travail qui est le minimum légal, on va dire, du rapport de force entre les travailleuses, travailleurs et le patronat, et qu'ensuite tout ce qui est au-dessus, accord d'entreprise, accord de branche et convention collective, du coup sont toujours plus favorables aux salariés. Et donc du coup cette loi remettra tout en cause, et c'est sur cet article 2 du renversement de la hiérarchie des normes que le gouvernement ne lâche pas, ne plie pas pour le moment. Mais il y a aussi la suppression du repos quotidien de 11 heures consécutives, le plafonnement de la majoration des heures complémentaires des temps partiels à 10%, le plafonnement de la majoration des heures supplémentaires à 10% également, l'allongement de la durée du travail sans compensation financière, le plafonnement des indemnités prud'homales, la facilitation des licenciements économiques, les négociations triennales sur les salaires en cas d'accord de branche et non plus annuelles, un accord d'entreprise aura une durée déterminée, c'est-à-dire que ça pourrait être renégocié à la baisse tous les ans si c'est ce qui est décidé, autrement ce sera tous les 5 ans maximum, la fiscalisation des subventions des activités sociales DCE et bien d'autres choses encore. Donc il y a eu une manifestation, c'était quand donc hier, on est bien d'accord.
C'est mardi.
Donc voilà, c'était hier.
Il y en a tellement que...
c'est ça exactement. Le jour avait été choisi par l'intersyndicale parce que c'était le jour où le Sénat adoptait la loi. Alors assez remanié, hein, parce que du coup ce qui a été fait le mardi 28 juin, c'est qu'il a été voté au Sénat. Alors j'ai les voix là, 185 voix pour contre 156, et donc ce projet de loi a été rendu nettement plus libéral, parce que le Sénat est de droite, majoritairement, et donc c'est le petit jeu politique, qui va être utilisé aussi par la gauche en disant, regardez la droite, ils sont méchants, ils ont fait pire que nous, et la droite dit, regardez en 2007 ce qu'on va vous faire subir. Donc voilà. Alors qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient, c'est un texte donc du coup singulièrement remanié par la majorité de droite à la Chambre haute, qui a rogné les nouveaux droits accordés aux salariés tout en approfondissant les aspects les plus entre guillemets libéraux. La loi est déjà très libérale, mais du coup là ils ont un peu enfoncé le clou du projet initial, qui a été voté donc au Sénat. Et donc après 2 semaines d'intenses discussions et d'une lutte acharnée enfin acharné, c'est ce qu'ils disent, parce que moi je suis pas sûr que ce soit tellement le cas. Je pense qu'il serre un peu la pogne de temps en temps entre les élus républicains, voilà, et les sénateurs communistes. Et du coup, ils ont mis, donc ils ont adopté donc ce très conversé article 2 qui instaure donc la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Mais il a en outre fait sauter le verrou des 35 heures en donnant la possibilité aux entreprises de revenir à 39 heures même sans accord. Le Sénat a aussi relevé contre l'avis du fameux gouvernement dit de gauche le niveau des seuils sociaux dans les entreprises, faisant passer de 11 à 20 salariés l'obligation de faire élire des délégués du personnel, c'est-à-dire bah, du coup à moins de 20, bah, rien, ni que dalle pour vous organiser et pour combattre le patron, et de 50 à 100 salariés à la création d'un comité d'entreprise et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les fameux CHSCT. Le seuil minimum de 24 heures pour être en partiel a lui été supprimé. Les sénateurs ont également réinscrit l'instauration d'un plafonnement des indemnités octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une disposition qui figurait dans la version initiale de la loi, mais abandonnée par l'exécutif en échange du soutien de la CFDT, ce fameux syndicat jaune. Dans le même esprit, les élus républicains ont assoupli encore davantage le licenciement économique en restreignant le périmètre des difficultés de l'entreprise au niveau national. Donc voilà, de fait, hein, si un groupe réalise des bénéfices à l'étranger mais pas en France, il pourra plus facilement se séparer de ses salariés. C'est quand même formidable. Donc du coup, la manifestation avait lieu ce jour-là. Du coup, aujourd'hui, il y a eu de nouveau le texte qui est revenu à l'Assemblée nationale et qui sera voté un peu plus tard au mois de juillet, avec demain un rendez-vous du gouvernement avec les syndicats et le MEDEF, certainement pour dire que bon, on fera pas plus que ça. Il y a eu quelques ajustements a priori de décider, des amendements qui ont été rajoutés, qui pourraient peut-être faire basculer l'unité syndicale, à savoir que FO s'était dit prêt à arrêter le mouvement s'il y avait quelques concessions faites par rapport à l'article 2. C'est le cas sur à peu près la moitié des choses, mais c'est pas le cas notamment sur les salaires, je crois, les temps partiels et sur d'autres choses. Donc pour l'instant, FO continue à dire bah nous on continuera le mouvement, mais en disant que le 5 juillet, jour de la prochaine mobilisation, donc c'est mardi prochain, qu'il y aurait peut-être pas de manif de leur côté, mais d'autres types d'actions. Donc on verra ce que ça donne. Bien évidemment, malheureusement, il y a eu les affaires de la case du siège social de la CFDT à Paris, puis celui de la CGT, puis, et même un petit peu avant, les communiqués très regrettables de la CGT qui se dissociaient des soi-disant casseurs, qu'on préfère nous appeler à la rigueur émeutiers, voilà, qui ont craqué par rapport au gouvernement, par rapport à cette unité qui restait encore implicite, même si c'était pas dit tel quel. Donc c'est un petit peu dommage. Donc il y a une réelle volonté de division de l'unité syndicale et de diviser aussi les manifestants et les manifestantes. Sur Lyon, pour le moment, bon, c'est pas tout à fait le cas, même s'il y a quelques tensions en avant de cortège. Il n'y a pas encore, à part le problème qu'il y avait eu lors de la manifestation à Oulins, c'est pas encore non plus, on se tape pas sur la gueule à chaque manif. Voilà. Sur la manif d'hier, il y a eu du coup deux tentatives de manif sauvage avec pas mal d'interpellations. Aux dernières nouvelles, il ne restait que deux personnes qui étaient en garde à vue. Voilà, on espère qu'elles seront sorties rapidement, en espérant aussi que les gens prennent un peu conscience que bah, les manifs sauvages, bah, c'est un autre mode complémentaire de lutte, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, il y a toujours le rapport de force à évaluer avant de partir, de savoir où on va, quel objectif politique, etc. etc. parce que bah, les flics sont sur les dents. En plus, hier, ce n'était pas les gardes mobiles, mais c'était les CRS. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes ordres. Ça veut dire qu'on décide, ils chargent beaucoup plus facilement et puis ils arrêtent beaucoup plus facilement. Ils se font plaisir, en gros, alors que les gendarmes mobiles peuvent attendre des heures et des heures à subir des pressions, des gels caillasses et compagnie, sans riposter tant qu'ils n'ont pas l'ordre. Ils sont formés pour ça. Tandis que les CRS, ce n'est pas la même. Et puis on voulait parler un petit peu de ce qui s'était passé ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas que Lyon. Et sur Paris, ce petit communiqué de presse de l'UDCGT Paris par rapport à ce qui s'est passé à la Bourse du Travail là-bas. Donc c'était aussi hier, hein. En cette fin de matinée, plus de 15 quarts de CRS se sont placés place de la République. Les CRS se sont déployés autour de la Bourse du Travail. L'objet de cette intervention policière, contrôler les syndiqués et toute personne qui quitte la Bourse du Travail, 3 rue Château d'Eau. Ce contrôle inclut les fouilles au corps. Nous ne savons absolument pas sur quel prétexte ces contrôles et fouilles ont été effectués. De nombreux syndicats ont leur bureau dans ce lieu au sein duquel se tiennent des réunions au quotidien. La seule hypothèse que nous pouvons faire, c'est que l'intervention policière vise à empêcher des militants et militantes de se rendre à la manifestation contre la loi El Khomri qui partait à 14h de la place de la Bastille. Cette intervention policière est inacceptable. L'Union départementale, donc CGT Paris, dénonce une entrave à l'activité syndicale et insiste sur la nécessité de mettre fin immédiatement à de telles procédures. La CGT exige également l'arrêt immédiat de toute fouille et entrave à la sortie de la Bourse du Travail. Il y a aussi du coup un texte qui circule, je crois, sur Paris Lutte Info sur ce qui s'est passé du coup hier matin là-bas, du coup parce qu'il y avait aussi une AG Interpro en fait qui se tenait dans les locaux syndicaux. Donc du coup c'est un peu raconté, je vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long. Voilà, mais il y a eu du coup durant tout ça eu au moins une interpellation hein, d'un membre de Sud-Éduc à son domicile. Voilà, le 24 juin, les postiers qui se rendaient à la manif ont été contrôlés 3 fois puis matraqués pour finalement passer l'après-midi devant un commissariat du 18e. 2 d'entre eux ayant été interpellés, l'un parce qu'il avait des lunettes de plongée, l'autre pour cette fameuse rébellion à la suite d'une charge. Ils sont présents tous les deux, donc devant la Bourse du Travail hier, c'était présent. Et donc du coup après 48 heures de garde à vue, donc Adil, cette personne doit comparaître le 6 septembre. Pour outrage et rébellion, matraqué dans le dos et sur les jambes. Il a subi 2 décharges de taser lors de son interpellation. Donc voilà, il raconte, j'avais seulement repoussé un CRS qui m'avait bousculé 2 fois, raconte-t-il. Il m'a dit, toi, je vais pas te lâcher. Et il m'a tiré vers l'arrière et c'est là, c'est parti en coup de matraque sur moi. Quand il a vu ma carte de résident, il m'a dit, je vais faire en sorte qu'on te renvoie. Secrétaire adjoint de Sud PTT 92, Xavier a lui aussi été matraqué le 24 juin. L'idée du pouvoir, c'est d'empêcher syndiqués et non syndiqués de se retrouver comme ici dans les AG Interpro ou dans les cortèges de tête de manif, analyse le syndicaliste. C'est leur cauchemar qu'il y ait une convergence entre des familles politiques différentes, des comités d'action et des syndicats. Je ne partage pas l'idée de renoncer à manifester, mais avec un pouvoir qui est prêt à encercler des bourses du travail, on va se retrouver face à des dispositifs comme en Turquie. On va être obligé de sortir très nombreux et nombreuses dans la rue. Donc voilà ce qui s'est passé un peu sur Paris. Il y a eu aussi un blocage de l'aéroport du Bourget. Donc plutôt sympa ça aussi, il n'y a eu aucun jet ne décollera et on leur fera tomber la chemise, donc ça c'était le mot d'ordre de l'action. Voilà, une centaine de grévistes du coup bloquaient hier matin l'aéroport du Bourget en plusieurs points à l'appel de l'intersyndicale Sud Solidaire CGTFO, donc c'était hier matin à 7h. Voilà, c'était 5 voyageurs en moyenne par avion. Ici, c'est l'aéroport du capital et du pouvoir. Et ben, du coup, virons-les tous sans les remplacer. Donc, c'était le beau d'ordre. Je sais pas comment ça s'est fini. À mon avis, ça a dû être dégagé comme assez rapidement. Il y a eu aussi une action à Lyon le matin même. Hier matin, donc du coup à l'appel pareil de l'Inter-Orga en lien avec les syndicats, une action au MEDEF de Lyon hier matin. Donc du coup, il y a des petites photos qui circulent, c'est assez rigolo, il y a une pile de pneus qui a été posée à l'entrée du MEDEF. Donc voilà, pour bloquer tout ça, je pense que les gens ont eu un peu peur dedans que ce soit allumé, mais ça n'a pas été le cas. On vous rassure, donc action assez symbolique, mais on espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est aussi ça qui fait vivre le mouvement. Ce ne sont pas seulement les manifs, mais c'est aussi toutes les actions qui se font à côté. Et du coup un petit témoignage aussi d'une personne arrêtée. Voilà, suite à mon arrestation, la justice de classe française m'impose un contrôle judiciaire jusqu'à mon procès qui se passera le 13 décembre, donc ce qui fait à peu près 6 mois de contrôle judiciaire. Et c'est impossible à respecter, plus qu'une interdiction de manifester, c'est quasiment une assignation à résidence. Donc cette personne-là vit à Clermont-Ferrand, mais je ne peux pas y circuler. Impossible de faire des démarches administratives, de prendre les transports en commun sans faire des détours impossibles, il n'a pas le permis. De travailler, je suis intérimaire et je suis souvent de passage dans le centre-ville pour le boulot, 3 petits points. De plus, je dois pointer 1 fois par semaine au commissariat de Clermont-Ferrand, je ne peux donc pas changer de ville. Mardi après-midi, je rentre en grève de la faim contre cette mesure fascisante que l'État m'impose. J'exige le retrait du contrôle judiciaire et le droit de vivre, travailler et lutter à Clermont-Ferrand. Osons lutter, osons vaincre. Et donc voilà, il a mis une petite image du périmètre qui était interdit dans la ville, donc c'est carrément effectivement une assignation à résidence. Et pour finir, alors ouais, un petit clin d'œil ou pas, parce que du coup sur ces appels un petit peu de foot à cagoule, de passer devant le cortège syndical et de jouer au foot, enfin plus ou moins, du coup ce qui moi me gêne, alors c'est pas du coup une intervention là, ou encore s'il est encore un peu politique, moi ça gêne un petit peu parce que du coup est utilisé le terme de foot populaire. Ouais, ça me gêne un peu parce que du coup faire un peu voilà le footloose bull comme ça se dit, voilà, en avant de manif en prétextant du coup le foot populaire, ça me pose un peu souci parce que je vais prendre l'exemple tout simple d'un club qui existe à Montpellier qui s'appelle Football du Peuple. Et donc du coup qui explique ce que c'est le foot populaire en fait, le football populaire. Et donc je vais vous le lire un petit peu et vous verrez quand même qu'il y a une grande différence avec ce qui se passe en avant de manif. Parce que leur titre de leur appel au départ quand ils se sont créés, c'était pour un club antisexiste, antiraciste, antifasciste et populaire. Et donc le mot d'ordre c'était contre la gentrification des quartiers pour un espace public et populaire au centre-ville. Donc je lis juste le début du tract pour vous faire une idée, puis vous irez voir si vous voulez, ils ont une page Facebook. Donc le Football du Peuple de Montpellier est un club de football amateur qui organise des rencontres sportives tous les dimanches dimanche à 14h sur le stade Prévost. Le club se veut ouvert à toutes et tous. Nous organisons des rendez-vous pour le plaisir et la beauté du geste, mais aussi pour permettre à des personnes de se retrouver autour d'initiatives sportives et populaires. Au-delà du sport en lui-même, le club se veut un moyen de réunir des gens de tout horizon et d'organiser à plus long terme une réappropriation de l'espace, ainsi que la mise en place d'un espace public dédié à l'éducation populaire et à l'auto-organisation. Notre club travaille contre l'image que peut renvoyer le football en général, virilisme, sexisme, intérêts financiers et mafieux, et tente de déconstruire les idées reçues comme celles qui tentent à dire que les femmes sont par nature moins bonnes que les hommes au football, que le football est un sport de compétition où règne la loi du plus fort. Notre club se veut anti-sexiste sur une ligne sportive en défendant le fait qu'une femme est aussi performante qu'un homme sur un terrain et que la seule différence qui puisse être observable se trouve dans la technique de jeu. Nous pensons que la société patriarcale conditionne les femmes depuis la plus tendre enfance et ne leur permet pas de se développer de façon libre, physiquement et sportivement. Voilà, notre club se veut également antiraciste, car nous ne pouvons pas accepter que la haine raciale se répande sur nos terrains comme dans les rues. Donc voilà, pour faire un petit clin d'œil un petit peu, voir ce que c'est effectivement le vrai foot populaire. Donc voilà, bon, on se fait du coup une deuxième petite pause musicale.
Si t'as pas grand chose après, ça va aller, sinon...
Au pire, ça servira si on est OP pour la semaine prochaine.
Allez, petite musique, on va écouter une nouvelle fois Ridan avec La Fleur au Fusil. C'est parti.
Quand vient l'appel du clairon et que le drapeau se lève à l'horizon, sur moi, je vous avoue fièrement que j'ai pas cette foi. Non pas que j'ai peur du combat, mais il y a des valeurs que je défends pas. Prendre ou arracher des vies, quelles qu'en soient les raisons, je désobéis. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves à vivre sur cette terre. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves que de nous foutre en l'air. Pourtant, j'aime tant me mettre au vert, je n'ai jamais supporté de marcher au pas, au rythme de ces chants militaires. J'ai toujours préféré le révolutionnaire qui seul affronte les lumières en bouleversant les siècles et nos pensées. Jaillissent comme jadis une fleur plantée dans les canons de la nation. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves à vivre sur cette terre. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves que de nous foutre en l'air. Et si vos guerres chantent le vacarme, je me demanderai d'abord d'où viennent les armes. Les centimes de grâce, monsieur le président, épargnez-nous la mort de nos enfants. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves à vivre sur cette terre. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves que de nous foutre en l'air. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves à vivre sur cette terre. Non, 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 je ne veux pas faire la guerre, j'ai d'autres rêves que de nous foutre en l'air.
Et voilà, on est de retour, l'émission Idées Noires, l'émission des militants militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et donc on va vite enchaîner avec une deuxième page de lutte sociale.
Tout à fait, pour signaler qu'une pétition est en ligne actuellement sur soit les réseaux sociaux ou sur les sites de lutte, ou en tout cas les sites syndicaux, puisqu'elle nous vient de la CGT, des travailleurs et travailleuses privés d'emploi et précaires de Saint-Étienne. Pourquoi ? Ben, c'est parce qu'il y a quatre jeunes, Martin, Nina, Jules et Yvan, qui seront devant le juge le 13 juillet. Accusation qui les concerne et qui sont réfutées par le comité de défense. Ils sont accusés de dégradation, de violence sur agent de la force publique. Et ça s'est passé lors de la manif du 12 mai dernier. Il y a eu une pétition, disais-je, donc voir en ligne, si vous pouvez.
On en avait parlé la semaine dernière, on avait lu l'appel total. Voilà, pour ce procès qui est politique. Non, mais c'est pas grave, du coup, c'est bien de le rappeler parce que c'est très bientôt, ça arrive là. Mmh. Il faudrait qu'il y ait un max de monde déjà qui signe la pétition, il y a un max de monde qui se déplace sur Saint-Étienne le 13 juillet.
Voilà. Calais maintenant avec une grève chez ISS Logistique et Production, 27 salariés pour obtenir la réintégration de 3 salariés licenciés, 3 salariés qui sont en contrat à durée indéterminée et licenciés pour faute grave. Ils sont accusés aussi de consommation d'alcool et de manquement au contrat de travail, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de buller, quoi. Enfin, du moins, c'est de quoi on les accuse. Par la même occasion, 3 intérimaires seront renvoyés dans leur foyer. Contrat non renouvelé pour contrôle également positif. Un contrôle positif donc d'alcoolémie par la police de la route. Alors, je ne vois pas ce que ça vient faire, évidemment, dans leur travail. En Haute-Seine, salariés, travailleurs et travailleuses donc du pôle solidarité, protection maternelle et infantile, aide et foyer de l'enfance ont manifesté devant le conseil départemental à Nanterre pour dénoncer les réductions, graves réductions de budget. Alors les conséquences, c'est que 2 foyers ados fermeront fin 2016. Dans la liste, il y a également des CDD à transformer, vous l'avez dit, en CDI. Précarisation aussi dénoncée, une précarisation à outrance. Un délégué CFDT a eu des mots justes, alors là, qui vont faire tomber le gouvernement, moi, je pense. Hein. Ça ne va plus. Il a dit ça, ça va probablement faire du bruit dans Landerneau. Bordeaux, maintenant avec aux alentours du 20 juin, les éboueurs ont déposé un préavis de grève pour le 21 juin avec la CGT et FO, grève d'une heure ou d'une journée reconductible. Les grévistes invitent les usagers, les usagères à garder leurs poubelles à la maison. Une bonne solution pour éviter que, qu'il y ait des lamentations habituelles du style « ça pue, c'est vilain, c'est pas bon pour l'image de la ville », etc. etc. Donc le 26, la grève se poursuivait. Le mot aux usagers était suivi, n'était pas suivi d'effet, non suivi d'effet, puisque les immondices s'accumulaient dans les rues. Et le 28, la grève était toujours d'actualité. Le Mont-Saint-Michel, maintenant. Ça se met partout, les grèves. C'est le Mont-Saint-Michel. Saint-Michel, là, c'est le mec qui a terrassé un dragon. Donc, au 21e siècle, c'est au tour des travailleurs et travailleuses grévistes de se mobiliser pour terrasser la loi travail, cette monstrueuse entreprise qui crache le feu patronal. C'est la CGT, Solidaire, FSU, qui sont ici transformés en chevaliers blancs, qui ont amené cette contestation au pied du mont en ce 28 juin avec blocage du parking. Et bien sur place, il y avait les gendarmes, donc la maréchaussée, qui sont venus et ont vu et ont contrôlé tout le monde et ont photographié, fouillé, reniflé aussi les véhicules. Un hélico caméraman, cadreur, qui survolait tout ce petit monde. On connaît ça, ici à Lyon. Il manquait plus que le sous-marin, n'oublions pas que nous sommes ici au pied du Mont-Saint-Michel. Ça aurait été justifié, mais que la marée était basse devant les basses manœuvres de la maréchaussée. Le sous-marin donc n'a pas pu intervenir. Petite note rigolote de ma part.
Tout à fait.
Voilà, donc à Lille, maintenant, au sud de la ville, une manif contre la... vous connaissez, etc., etc. À noter ici que l'on retrouve, bien sûr, nos syndicats préférés, mais aussi des syndicats de fraternité qui sont venus de Belgique et de Grande-Bretagne, partis main dans la main, donc tout ce monde, pour une manifestation en centre-ville. Un comité transfrontalier a été créé par les syndicats ci-dessus cités contre la loi, donc projet El Khomri, mais aussi contre son frère belge, le fameux projet Peters. Qui est pour une annualisation du temps de travail. Et un grand projet aussi a été élaboré, un grand projet militant, une grève générale européenne. Alors je dirais, allez, chiche.
Tellement bien.
Chiche. Et pour finir donc cette deuxième page, on ira dans le Doubs, là, à Etup, avec une grève ouvrière chez Snop, une société, la société NOAZN d'outillage de presse, grosse entreprise en lien avec l'industrie automobile. Alors là, encore une fois, ce sont les négociations annuelles obligatoires qui sont en question, d'ailleurs comme en 2015. Également des primes diverses qui sont plus ou moins diminuées. Les représentants des salariés qui n'ont pas leurs yeux dans leur poche font remarquer que le chiffre d'affaires progresse et les dividendes aussi. La direction a des oursins dans les caisses. À noter ici que la CFDT donc qui était plutôt timide, même pour dire qu'elle n'a rien foutu en 2015, eh bien en 2016 s'est alliée sans condition à la CGT.
Ouais, hein, encore de temps en temps, il y a encore des coins où ça se fait.
Pour leur envoyer des fleurs.
Mais je pense que c'est bientôt fini.
C'est terminé pour cette deuxième page.
Il nous reste 5 petites minutes et donc du coup, je voulais vous donner rendez-vous si vous êtes plutôt dans le nord de la France. Je bouge le micro, mais je prends le jus en même temps, c'est pas très agréable. Si vous êtes du côté de Dieppe, voilà, donc il y a un appel face à Pédiga, solidarité avec les migrants. Différents groupuscules racistes, donc Pédiga France, le Parti de la France, Riposte laïque, la Dissidence française, le Front de défense de la France. Il y a beaucoup de France dedans, ça fait un peu mal à la langue. Se sont donné rendez-vous donc le 2 juillet, donc c'est ce week-end, sur le parking du Bas-Fort Blanc pour vomir leur haine des réfugiés. Sur place, la résistance antifasciste s'organise dans un contexte difficile. Selon Médecins sans frontières, environ 200 réfugiés se sont installés sur Dieppe depuis la fin 2015, dont un groupe de migrants albanais qui a installé un camp au bord d'une falaise en dehors du port principal. L'organisation humanitaire signale que le 1er juin dernier, une violente tempête a dévasté les tentes des migrants et des rochers, emportés par le vent et la pluie, sont tombés sur le camp sans faire de blessés, mais en laissant plus de 80 migrantes et migrants sans abri et totalement démunis. À la suite de cette tempête, Itinérance Dieppe a demandé de l'aide au maire PCF de Dieppe qui a refusé. Comme si l'exil, les intempéries et le mépris des autorités locales ne suffisaient pas à pourrir la vie des migrants et migrantes, les imbéciles islamophobes de Pédiga France ont appelé à un rassemblement le 2 juillet prochain contre, entre guillemets bien évidemment, l'invasion migratoire. Lancé par Renault Camus en 2015 sur le modèle du mouvement allemand et actuellement dirigé par Loïc Perdriel, le groupuscule n'a heureusement jamais réussi à mobiliser plus de quelques dizaines de personnes comme en février dernier à Calais. Ils comptent beaucoup sur l'interdiction de leur rassemblement du 2 juillet, ce que le préfet a fait le 16 juin, évoquant un risque sérieux de heurts et d'incidents violents, pour n'avoir pas à assumer son éventuel échec et se poser en victime du système. Une stratégie partagée par Riposte laïque qui appelle également au rassemblement. Ralfron Rouen précise que la première interdiction date en réalité du 19 mai dernier, mais que les différents partis et associations d'extrême droite, histoire de faire le buzz, annoncent bravement l'interdiction, mettant en place une chaîne de harcèlement téléphonique auprès de la préfecture et de la mairie. Dès cette date, Ralfron Louan et Ralfron Le Havre étaient en contact avec des militants militantes sur Dieppe afin de préparer une riposte antiraciste locale et régionale. En dépit de cette seconde interdiction qui confirme la première, il est toujours difficile de savoir ce qui se passera à Dieppe le 2 juillet prochain. Dans tous les cas, la haine et la xénophobie contre les réfugiés continuent à être alimentées par ces groupuscules, continuent à s'en prendre aux réfugiés sur les réseaux sociaux et la vigilance antifasciste doit être l'affaire de tous et toutes. Ainsi, nous vous invitons à répondre à l'appel de l'Union Locale Solidaire de Dieppe à un rassemblement antiraciste le 2 juillet à Dieppe, donc à 14h à La Fontaine, près de l'Office du Tourisme. Et on finira par une bonne nouvelle, même si ces militants sont toujours dans la nature, avec la fin de ce mouvement qui s'appelait le MAS, le Mouvement d'Action Sociale. Et bien c'est fini pour ces nationalistes révolutionnaires. Au terme de 8 années d'existence, voilà, ce groupuscule se définissait comme social, national et radical, hein, ça rappelle des choses un petit peu, ou encore comme néo-solidariste, avait été lancé au cœur de la période 2007-2010, année de crise du Front National, qui a vu une certaine effervescence au sein de l'extrême droite radicale française, inspirée par les néo-fascistes italiens de Casa Pound, qui se pic de faire œuvre d'action sociale. Les militants du MAS revendiquaient lutter contre forcément la tyrannie de l'avoir et le despotisme du fric, c'est formidable. Ces derniers mois, ils se sont fait remarquer par une tentative d'infiltration de la ZAD de Sivens, ou encore pour s'être mobilisés contre les migrants et migrantes à Calais aux côtés du collectif des Calaisiens en colère proche du FN. Donc voilà, ce groupuscule n'existe plus, tant mieux, mais après on sait très bien que les militants se raccrocheront ailleurs de toute manière. Et puis on va pas tarder à finir, on vous donne juste quelques infos si jamais vous voulez voir ça sur net, ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, parce que comment, je sais pas si on sera là la semaine prochaine, autant en profiter. Ce communiqué assez dégueulasse du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France, vous allez voir ça sur le net, c'est assez affligeant par rapport aux arrêts maladie qui peuvent être délivrés par les personnes qui avortent. C'est assez hallucinant. On vous conseille aussi le communiqué du collectif Jeunes Majeurs, je crois, de Lyon, qui s'appelle « À Lyon, laboratoire de la maltraitance des mineurs isolés étrangers ». Et on vous invite aussi à aller voir ce qui se passe du côté du Mexique avec Amnesty International, qui dénonce la banalisation des abus sexuels sur les femmes en prison. Et les 6 morts et 108 blessés dans une manifestation d'enseignants il y a quelques jours de cela. Donc voilà, on garde ça au chaud si jamais on est là la semaine prochaine. Mais si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil sur le net, allez-y. Oui. C'est assez intéressant, pardon, je m'arrête. On vous rappelle du coup que ce samedi, pas de permanence à la Plume Noire, ça reprendra certainement mercredi prochain 17-19 et samedi prochain 15-19, et après on vous tiendra au courant si jamais il y a une émission de radio, vous le verrez bien mercredi prochain, et si les permanences continuent jusqu'à une partie du mois de juillet, on va dire. Voilà, en tout cas on vous souhaite une bonne soirée, la lumière du frigo est toute prête, elle va enchaîner.
On va envoyer le générique et on vous dit à bientôt quand même.
À bientôt.
Allez, salut.
Ciao.